Nous sommes avec Bruno qui est en régie pour écriture dessinée. Ça va commencer dans quelques instants. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors, je vais commencer par la première phrase introductive d'une série qui s'appelle Les Mémés. Elle dit, je cite, « Fuite glaciale, c'est pas une maison de vieux, ça. Il est pas né celui qui me mettra dans un EHPAD. » Une telle phrase mérite toute notre considération et la série Les Mémés, où on a trois vieilles, Huguette, Lucette, Paulette, qui ont un humour très incisif, qui parle de tout, qui s'occupe de tout. Et elles sont animées par le dessin de Sylvain Frécon, qui a un dessin un peu vachard, très ironique. Et en tout cas, le quatrième tome de cette série vient de sortir, ça s'appelle « Fleurs de pavé ». Et c'est assez réjouissant. Nous serons donc avec Sylvain Frécon pour être dans cette mécanique du gag à l'œuvre dans Les Mémés. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Antoine est en régie. Pour la musique, nous écouterons successivement Alexis Ashka, Dick Angarn et Sylviane Gabriello. Ça vous dit rien, Sylviane Gabriello? Elle a, dans les années 60-70, fait quelques parodies de chansons et nous écouterons à la fin de l'entretien avec Sylvain Frécon, Les Potins d'abord. Commençons par une brève. Le livre de mots CDM, c'est-à-dire tire-moi l'oreille, Monsieur le Président, vient de recevoir le prix Gottlieb 2024. Il succède à Manu Larsonnet, qui est aussi un auteur qui ne fait pas que des livres inquiétants, comme son dernier La Route, mais il fait aussi de l'humour et de façon parfois très féroce. En tout cas, ces mots CDM qui lui succèdent, c'est très bien. Donc c'est un auteur qui a un humour aussi très incisif, très drôle. Il signe un très grand nombre de séries. On en reparlera assez prochainement, puisque le mois prochain, au mois de mai, sortent deux volumes de Jane Ware. Donc, mot CDM, lauréat du prix Marcel Gottlieb 2024. Shadok. Alors, je voudrais commencer ces chroniques pour entourer les livres de l'invité du jour par le livre d'Anouk Ricard, son dernier livre, qui s'intitule « De qui Coco ?». Alors, bien sûr, « De qui Coco ?», c'est un canard. Alors, j'ai peut-être une sensibilité naturelle vers ce personnage, mais c'est surtout vers Anouk Ricard qui est en train de composer une œuvre libre, volontairement libre, qui ne souhaite pas se laisser enfermer par les carcans du genre. Et donc, on assiste une nouvelle fois au dynamitage des genres narratifs que l'on peut trouver aussi bien en littérature qu'au cinéma. Et là, il s'agit du western. Donc, c'est une variation sur les thèmes du western. Elle évacue des thèmes un peu récurrents, comme la violence, les Indiens, la position des femmes. La position des femmes dans les westerns, et puis la mort. Donc, elle évite de traiter ces différents thèmes, et elle va, au contraire, s'attacher à créer un univers qui va être ouvert à toutes les lectures, à tous les publics. C'est donc celui du western à partir d'un personnage de canard qui est une sorte de cow-boy, mais qui n'est pas lourdement armé, qui va choisir un cheval. Il va se demander si c'est pas le cheval qui, plutôt, ne c'est pas lui qui le choisit. Son cheval s'appelle Gigit. Et en fait, il va le traiter avec la même considération qu'il pourrait traiter n'importe quel individu. Et donc, eh bien, le cheval va rentrer avec lui dans les saloons, va prendre la diligence, va partager sa cabane. Et on est donc dans déjà un autre rapport, une autre façon de faire. Il y a aussi dans ce traitement du western une volonté d'être dans un registre beaucoup plus absurde. Et c'est la marque, la puissance de l'écriture de Anouk Ricard. Il y a, et elle le dit dans un entretien, elle a cherché à utiliser l'intelligence artificielle. C'était peut-être une piste que les créateurs eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle qui peut-être pourrait prolonger ou faciliter leur écriture. Et puis, lorsqu'elle a eu les propositions de l'intelligence artificielle, alors là, elle a trouvé ça carrément mais nul. Et donc, elle dit « Non, mais c'est pas possible. » Donc, elle continue de faire les choses elle-même et c'est très bien. Il y a donc une humanisation du cheval, un statut d'amitié entre le canard et le cheval, et des histoires qui sont souvent des histoires courtes en une page. Il y en a qui se déploient sur plusieurs pages, mais à chaque fois, c'est créer dans ce monde du western des situations plus atypiques, en tout cas qui partent avec ce décalage de départ que permet la bande dessinée animalière. Nous sommes avec des animaux. Il y a par exemple un commerçant plutôt véreux qui vend de la nourriture et fait de la nourriture pour un saloon, mais qui est immangeable et qui crée des conséquences graves. Et donc, c'est un lion avec la crinière très, très imposante. Le système animalier fonctionne ici très, très bien. Il y a, et c'est la grande qualité de ces livres pour la jeunesse, c'est de jouer avec la liberté de lecture des jeunes lecteurs. Je précise, un enfant va très facilement prendre et intégrer les partis pris du créateur, et ici ceux d'Anouk Ricard, donc bande dessinée animalière, univers du western, des situations qui sont complètement atypiques, et là où notre cartésianisme pourrait être heurté, eh bien les enfants, pas du tout, considèrent ça comme impossible, mais impossible qui va servir à du jeu, à de l'humour, à de l'absurde, et ça rentre parfaitement dans ces habitudes de lecture, parce que là aussi, les enfants ont plus de facilité pour jouer avec ces situations décalées. Il y a donc une qualité dans l'œuvre d'Anouk Ricard, c'est de refuser tous les postulats narratifs, c'est de permettre, une fois les parties prises posées, qu'en pleine conscience, on puisse pleinement savourer chacune des histoires de ce Ducky Coco. Je ne sais pas si on retrouvera ce personnage plus tard, parce que Anouk Ricard n'est pas spécialement intéressé par les séries. Il y a un ensemble d'histoires qui sont indépendantes, à chaque fois avec ce côté très absurde qui est à l'œuvre. Elle est en train de constituer une œuvre tout à fait réjouissante. Et ça, c'est la moindre de ses qualités. Donc De qui Coco, d'Anouk Ricard est publié par les éditions 2024. Alors ils avaient la collection 4048 pour la jeunesse, mais là c'est vraiment un livre qui est pour un public plus large. C'est à 77 ans, comme le veut la phrase habituelle. Et c'est un très beau livre, toujours avec ce travail soigné d'édition qui est toujours à l'œuvre par l'éditeur strasbourgeois. Les 72 pages de ce récit sont au prix de 23 euros. Moustique. Alors, je vais un peu mélanger les genres. On va quitter ce registre de l'humour et de l'absurde pour évoquer un livre, celui de Giovanni De Gregorio pour la partie scénario et de Grégory Panaccione pour la partie dessin. Il s'agit de L'homme en noir. Une bande dessinée qui, à travers le regard d'un jeune garçon, va aborder de façon intense les violences sexuelles faites aux enfants. Alors, le postulat de base qui a peut-être motivé les auteurs, c'est que chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, ce qui représente une personne sur 10. Un enfant est victime de viol ou d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes. L'inceste représente une partie importante de ces violences et dans 80% des témoignages recueillis, l'agresseur est issu de la famille. Donc, l'écriture de L'homme en noir s'attache vraiment à chercher comment mettre en image et en récit ces situations sans tomber sur une sorte de réalisme qui serait plus insoutenable. Et donc, L'homme en noir va être cette façon pour Giovanni Di Gregorio de matérialiser ses sentiments, ses états d'âme d'un enfant victime de ce type d'agression. Le récit. Matteo a tout pour être heureux. Un cadre de vie agréable, des parents formidables, un petit chien affectueux et Yvan, son meilleur ami, une vie de rêve, en somme. Pourtant, tous les soirs, il fait le même cauchemar dans lequel un homme en noir terrifiant le poursuit. Qui est-il ? Le danger qu'il représente est-il réel ou pure imagination du petit garçon ? Un récit fort et utile sur un sujet de société des plus graves. Alors, la grande qualité de ce récit, c'est de superposer deux situations, qui est celle du cauchemar et celle du traumatisme subi après un inceste. Il y a eu déjà des représentations précédentes, comme Un cauchemar dans mon placard, qui, par le simple fait de la représentation de ce que peut être un cauchemar, permet à l'enfant souvent de réaliser que c'est son propre imaginaire qui va créer le cauchemar et son image du cauchemar, ce qui est toujours un moment difficile. Et donc, l'homme en noir va être ce personnage qui va habiter les nuits de Matteo, et on va avoir donc ce contraste très intense entre ce moment de la nuit et le moment où le matin, son chien Tommy va venir le réveiller. Et là, il y a une espèce de joie qui s'installe tout autour de lui. Et pourtant, chaque nuit, on est dans cette même violence, cette même intensité et cette présence de l'homme en noir. Il y a en plus dans le dessin de Giovanni, de Grégory Panaccione, qui est un auteur qui avait par exemple fait Cabo Caboche, où il était aussi question de chien, avec cette représentation très vivante et qui correspond parfaitement à ce que peut faire un chien, à ce que peut témoigner un chien quand il fait la fête à un enfant qui est son maître. Il y a donc une représentation des espaces de l'enfance, donc les parents, le chien bien sûr, la chambre qui va être un lieu qui le jour peut être très accueillant et qui la nuit va au contraire être différent, et puis l'espace scolaire, les amis de l'école, et Giovanni De Gregorio va convoquer l'image du psychologue qui va écouter une première fois Matteo pour essayer de dénouer cette dureté de ses cauchemars. Il y a dans cette mise en image des moments aussi absolument réussi, qui est le dessin des barres d'immeubles où vit Matteo à proximité. Lui, il est dans une petite maison, mais les grands ensembles sont là, et il y a une réelle présence qui a son côté aussi bien inquiétant, mais aussi un côté très repéré, très efficace aussi. L'école est là, il y a ses amis qui vivent ici, Yvan, dont on voit qu'on voit souvent apparaître, eh bien vit dans ces grands ensembles. Il y a ces moments du cauchemar qui sont aussi représentés avec intensité. Je n'en dis pas plus parce que la fin a une très grande efficacité, mais en tout cas, les deux auteurs se sont donné toute une sorte de paramètres d'écriture et de mise en image pour que le Mans Noir soit justement l'équivalent de ces représentations du cauchemar, mais représente ici cette fois pleinement, profondément, pertinemment, les traumatismes dus aux violences faites aux enfants. Une très grande réussite de Giovanni De Gregorio pour la partie scénario et de Grégory Panaccione pour la partie dessin. C'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Mirage. Les 128 pages de ce récit sont au prix de 29 € et le livre a été imprimé en Belgique. Musique.
Aliéné par sa laisse en cuir, le pauvre klebs qu'on tire à l'air. Désemparé, sa maîtresse, une dame âgée, se pâme devant son poupir. Adoré, pas facile d'être chien de vieille quand la vieille devient aigrie et reporte ses insomnies sur le chien de sa chienne de vie, sur le chien de sa chienne de vie. Devenu le seul objet de désir de la veuve, le chien n'est jamais lâché, habillé d'un manteau de cuir très laid. Le Yorkshire se voit humanisé. Pas facile d'être chien de vieille quand la vieille devient aigrie et reporte ses insomnies sur le chien de sa chienne de vie, sur le chien de sa chienne. Devenu au fil du temps le seul remplaçant de tous ceux qui ont délaissé la vieille, le chien est le mari, l'amant, l'ami et l'enfant de cette pauvre âme en détresse. Pas facile d'être chien de vieille quand la vieille devient aigrie et reporte ses insomnies sur le chien de sa chienne de vie, sur le chien de sa chienne de vie.
Elle s'appelle Huguette, Lucette et Paulette, trois mémés à la silhouette tassée, les seins portés bas sur un ventre généreux. Elles ont démarré leur récit du quotidien dans Chroniques des âges farouches. Nous y découvrons leur caddie comme animal de compagnie. Les mémés portent... Les mémés portent des besicles normales pour un grand âge. Leur regard reste impénétrable. Après fraîcheur de vivre, puis mourir peut encore attendre, les trois mémés reviennent avec Fleur de Pavé, le recueil, quatrième recueil de leur série. Gag en une image, quelques strips parfois, deux pages, restent leur espace humoristique. À chaque... il y a des fois, on n'y est pas, quoi. Je reprends. Alors, à chaque fois, cette relation dessin et texte fait mouche, jouant de différents ressorts comiques, visuels, narratifs, lorsque par exemple une mémé évoque l'accident dont son mari a été victime en tombant dans l'escalier, ou en jouant sur des propos décalés avec leur statut de mémé. Par exemple, dans cette image où chez le coiffeur, sous le casque soufflant, Huguette s'exprime. Purée, si avec ça, on meurt pas belle. Elles ont un avis sur tout, et le verbe « haut », les nouvelles technologies, la sexualité, les lanceurs d'alerte ou la crise écologique, tout cela fait leur quotidien. Sylvain Frécon, leur créateur, les dessine avec un trait énergique et ironique. Un brin vachard, elles ont pris pleinement place dans le paysage des héros d'humour dessinés. Nous sommes avec Sylvain Frécon pour qu'il détaille les processus de création de ces trois mémés, véritables drôles de dames qui ne sont pas prêts d'aller en EHPAD. Bonjour Sylvain Frécon.
Bonjour,
j'ai un peu ratatouillé pendant le chapeau, mais bon, il y a des fois des situations un peu plus compliquées que d'autres. Alors, j'ai une première question. Pourquoi avoir mis des lunettes à ces trois mémés? Parce que finalement, c'est presque leur regard.
Exactement, ouais. Et ben, en fait, je craignais un peu qu'un jour on me pose cette question parce que je me la pose moi-même. Effectivement, je pourrais les représenter un peu avec des yeux, des yeux ronds, avec un petit point comme c'est fréquemment représenté. Mais je sais pas, je tiens à ce que leur regard soit, je sais pas, peut-être soit assez neutre pour que ce soit le mien qui soit derrière, en fait. Je sais pas. Ça reste assez mystérieux, mais je ressens ce besoin de les rendre assez... de les planquer derrière ces lunettes, ouais. Et je peux pas vous en dire plus pour le moment, quoi. Mais la question me travaille aussi.
Parce que en fait, si on prend quelques personnages de bande dessinée, on peut penser au Kebra de Jeannot qui, avec ses deux gros yeux noirs, c'est comme les lunettes de ces trois mémés. Si ce n'est
oui.
Qu'elles, elles
en fait,
sont bleues.
Je pense vachement à Gary Larson, qui est un... Il fait pas de la bande dessinée, lui. Il fait plutôt du dessin d'humour. C'est un Américain, si je me trompe pas. Et lui, tous ses personnages ont les yeux symbolisés par des traits ou des lunettes. On ne voit pas on ne voit pas leur pupille, quoi. On ne voit pas l'humanité de leur regard. Et ça les rend assez... je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça donne une portée un petit peu universelle, comme s'ils étaient un peu, en fait, régis parce qu'il les agit de manière interne, la haine, la joie, la frustration, leur... Donc comme si c'était un peu des êtres régis par des choses qui bouillonnent en eux, en fait.
Sylvain Frécon, qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a permis la création des mémés? Ça a été quoi le déclencheur?
Je pense que j'ai un amour pour ces vieilles dames, déjà graphiques à dessiner depuis toujours. Et je pense que dans la bande dessinée, particulièrement d'humour, les vieilles dames sont particulièrement... c'est sympathique à dessiner, quoi. Mais il y a surtout que j'habite dans le 20e arrondissement à Paris et que quand je sors de chez moi pour aller boire un café ou acheter du pain, elles sont autour de moi, quoi. Elles sont vraiment... c'est leur... je vais pas dire que c'est une réserve, quoi, mais presque, en fait. Et donc, ça fait pas mal de temps que je m'amuse à... Il y a une part de fantasme sur elles à imaginer ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent penser, ce qu'elles peuvent... Et puis aussi, elles sont touchantes, elles me touchent aussi, parce que comme vous le disiez dans votre chapeau, elles ne sont pas en EHPAD, elles s'accrochent à leur indépendance, elles habitent dans des appartements, des petits appartements, avec parfois des cages d'escalier à monter, elles ne sont pas dans des structures qui les aident, elles sont indépendantes, leur quotidien est certainement plus compliqué, mais... elles ont cette fierté d'être encore livrées, courageusement indépendantes, en fait. C'est ça qui me touche. Et j'ai commencé ensuite à griffonner mes premières idées, à les poster sur Facebook. J'ai longtemps, testé la série sur Facebook en mettant en partage des dessins, des bandes, des pages de gags. Et petit à petit, durant une année, j'ai rencontré un petit peu les personnages, j'ai compris ce que je voulais faire avec elles, ce que j'avais envie de raconter. Et donc, en fait, la série s'est un petit peu approfondie jusqu'au moment où Fluide Glacial m'a contacté, parce que beaucoup d'éditeurs font de la veille sur les réseaux pour voir un petit peu ce qui se fait. Et ils m'ont contacté pour me dire que ça les intéressait. Donc voilà, c'était le début de la série, en fait.
Alors aujourd'hui, c'est donc le quatrième recueil qui est sorti.
C'est ça, ouais. Je suis sur le cinquième là, actuellement.
Qu'est-ce qui a changé? Comment elles ont évolué? Comment vous les sentez maintenant? Parce que c'est pas évident de passer des gags d'un premier recueil à une présence. Régulière et intense.
Oui, bien sûr. Ça implique déjà d'avoir la capacité de leur faire, d'avoir l'inspiration, d'avoir des idées, régulièrement des idées. Et j'ai eu un petit peu peur à une époque, en particulier après le tome 1. Est-ce que j'ai de quoi faire un tome 2? Est-ce que j'ai l'inspiration pour faire un tome 2, un tome 3? Parce que je savais que l'univers dans lequel j'évoluais était très étroit. C'est pas les aventures d'Astérix qui va en Espagne, qui va en Amérique, qui fait ci, qui fait ça. C'est pas Tintin qui voyage. Mes mémés, elles sont dans le 20e arrondissement, elles bougent pas. Elles vont faire leurs courses, elles vont à la brasserie. Parfois, elles vont en Normandie un petit peu voir la mer, et c'est tout, quoi. Et elles regardent la télé, elles se couchent, et puis voilà, quoi. Elles vont des enterrements, parfois. Donc, je craignais que dans un univers aussi étroit, je tourne rapidement en rond. Et en fait, non, parce que, pour l'instant, je suis assez rassuré, j'ai pas ce problème-là, parce que je crois que les mémés sont des véhicules qui me permettent de parler de tout ce qui me passe par la tête, en fait. Et donc, je peux parler de tout, de la société, du monde sans limite. Les mémés parlent de tout, voilà, comme vous disiez, elles ont pas de tabou, elles ont pas de complexe. Je peux parler de cul, de société, de technologie, d'informatique, de problèmes de santé, de la mort, de la religion, je peux parler de tout avec les mémés, quoi. Il faut juste trouver un biais drôle pour que ça fasse rire. D'où la difficulté.
Sylvain Frécon, est-ce qu'il y a des thèmes que vous vous interdisez ou au contraire pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses que les mémés ne pourront ou ne diront jamais, que vous avez déjà repérées?
J'ai pas l'impression. Ce qui est sûr, c'est que je pourrais représenter des mémés connes, racistes, homophobes et sans problème. Mais on verrait, le propos serait de montrer qu'elles sont racistes et homophobes et ou c'est pas antisémites ou n'importe quoi. Non, j'ai aucun problème à raconter ce que je veux. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon propos sera le mien, quoi. Et j'ai aucun problème de qu'on peut parler de liberté d'expression, en fait. Non, j'ai aucun problème à ce niveau-là, quoi.
Quelle est la mécanique du gag? Qu'est-ce qui déclenche? Bon, par exemple, il y a beaucoup de thèmes abordés. Par exemple, un gag en une image, elles sont au cimetière et sur la pierre tombale, on a l'adresse du compte Instagram, du compte Twitter. Et les trois mémés scrollent devant la pierre tombale. C'est quoi le déclencheur, là?
Le déclencheur, c'est... Je pense que dans ces métiers-là, quand on fait ce genre d'humour, on a un cerveau qui est à force se met sur un mode décalé. Je crois que c'est surtout ça, en fait, le secret de l'humour, c'est avoir un regard décalé sur les choses. Et puis à force d'avoir ce regard décalé, on devient totalement formaté à ce type de regard, en fait. On regarde n'importe quoi, n'importe quel événement, et on le voit de manière drôle alors qu'il est dramatique, on le voit de manière pathétique alors qu'il est il n'est pas censé l'être. Enfin voilà, c'est surtout un type de regard qu'a le dessinateur, l'auteur sur les choses de la vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qu'on construit dans sa vie par le vécu, l'expérience, par le besoin aussi. Je pense que c'est aussi un besoin de voir les choses sous le prisme de l'humour. Mais je crois que c'est aussi à l'entraînement, et plus on le fait, plus on devient efficace dans cette forme de regard, en fait.
Sylvain Frécon, je vous propose un moment de musique et puis on se retrouve et on va parler... peut-être plus précisément de dessin. À tout de suite.
À tout de suite.
C'était une boîte toute noire, la manivelle pour faire mouvoir les souvenirs d'avant naguère manquaient. Avec une clé nostalgique, je remonte la boîte à musique dont nous attendons le son prison. Vous êtes la plus belle de La Rochelle, vous êtes la plus belle mademoiselle Gisèle. Fonctionner avec un ressort, étonné d'être encore étonné. Un moment se crispe nos corps, un éclair et la voix ressort, si le nez pour une éternité. Vous êtes la plus belle de La Rochelle, vous êtes la plus belle mademoiselle Gisèle. Cinquième couplet, couplet je te mets, tu me plais. Petit frangin vient montrer son train. Petit frangin devient tout fou lorsque son train casse le cou entre tes bras du phonographe. Vous êtes la plus belle de La Rochelle, vous êtes la plus belle mademoiselle. moi.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Sylvain Frécon à l'occasion de la sortie du tome 4 de sa série Les Mémés. Sylvain Frécon, comment ça se passe sur la table à dessin quand vous mettez en image un gag ou lorsqu'une image va créer un gag?
Alors, déjà, la table à dessin, c'est malheureusement plus une table à dessin avec des feuilles, des crayons, des pinceaux, tout ça a été remplacé par l'informatique. Et donc j'ai un ordinateur avec ce qu'on appelle une tablette graphique, en fait. Mais ça ne change rien au processus créatif. Et alors comment ça se passe? Ben déjà, il faut, moi, tant que si j'ai pas d'idée, je peux rien faire. Il faut une idée. Je suis un dessinateur qui, s'il n'a pas d'idée, ne fait rien, quoi. Donc il faut trouver des idées de gags, des idées d'images, des idées de dialogues. Et ça, la pêche aux idées, avec l'expérience, je commence un petit peu à comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Enfin, j'essaye. Ça peut venir. Déjà, il y a des idées qui arrivent comme des flashs, un peu. Comme des flashs, c'est assez étonnant. Ça peut être, on peut être aux toilettes, en train de prendre sa douche. J'ai discuté avec des auteurs qui me disaient qu'ils avaient souvent des idées sous la douche. Je sais pas pourquoi. Et peut-être que la douche est un lieu apaisant, qui propice à l'inspiration, j'en sais rien. Et puis sinon, je peux avoir des idées en me promenant dans la rue, en faisant les courses, en voyant une mémé passer devant moi dans la rue. Et parfois, les idées viennent d'un bloc. Paf, je peux avoir une idée en une fraction de seconde. Je peux avoir un gag complet, toutes les cases en quelques secondes. C'est assez incroyable. Et parfois, je peux aller chercher l'idée en crayonnant sur ma table à dessin, en partant d'une idée de base, d'une situation un peu loufoque, et en grattant, en les faisant discuter, en écrivant des dialogues. Petit à petit, je peux tomber sur quelque chose de drôle, je peux trouver un biais amusant, en fait. Voilà, ce qu'il faut, une grande leçon, c'est quand une idée arrive, quand on a une idée dans le cerveau, c'est tout de suite la noter avant qu'elle s'envole. Parce que ça, c'est une fois, on se dit, ouais, je vais m'en souvenir, je la noterai plus tard. Et en fait, 10 minutes plus tard, on s'en souvient plus. Et l'idée s'est envolée. Donc faut juste espérer qu'elle repasse un jour. Donc l'important, c'est de noter un maximum de choses sur un bout de papier, un post-it, n'importe quoi. Et ensuite, une fois que l'idée est là, il faut déjà ensuite la crayonner pour voir comment elle fonctionne graphiquement. Et puis ensuite, une fois que l'idée est là, le reste va assez rapidement. Tout ce qui est graphique, ça va assez rapidement. Ça passe par un crayonné, le trait noir et ensuite la mise en couleur, l'élaboration de dialogues pour qu'ils soient les plus simples, les plus efficaces et les plus percutants. Mais une fois que l'idée est trouvée, de toute façon, j'ai envie de dire que le plus gros est fait, en fait.
Sylvain Frécon, il n'y a pas donc d'idée qui finalement n'aurait pas abouti?
Il peut y avoir des idées que je travaille, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, donc je les remets dans mon tiroir, mais elles ne sont pas perdues pour autant. Je pense qu'il y a des gags qui peuvent paraître assez simples, assez efficaces dans les albums, et il y en a certains sur lesquels j'en ai bavé, quoi. Je suis revenu à la charge plusieurs fois, j'étais sur le point de trouver la solution, puis finalement non, j'en suis éloigné, j'y suis revenu. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont une conception assez, assez laborieuse, en fait. Et il y en a d'autres qui sont venus, mais vraiment, paf, d'un coup, comme ça, sans problème. Et d'autres qui sont quelque part assez simples dans leur construction, qui ont mis du temps à aboutir. C'est étonnant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de logique. C'est absolument pas rationnel, ce qui peut être parfois un petit peu angoissant, en fait, parce que c'est quelque chose, l'inspiration, qu'on ne maîtrise malheureusement pas tout le temps, quoi.
Il y a
on peut s'entraîner
il y a eu
à force
Pardon, excusez-moi.
Mais en tout cas, l'aspiration, ça se travaille. Hein. Ça se travaille, mais ça reste quelque chose de fluctuant, en fait.
Certains écrivains ont parlé de véritables pannes. Est-ce que ça vous est arrivé?
Je pense à Simenon qui avait arrêté parce qu'il lui-même parlait de robinet qui était tari. Il n'y a plus rien qui coule. Et je sais que, bon, sans me comparer à Simenon, bien sûr, mais je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir à ça. J'ai appris là, sur 5 albums bientôt, là, à me positionner par rapport à l'inspiration et à me dire que peut-être qu'un jour, il n'y aura plus d'idées, mais pour le moment, il y en a, donc allons-y, quoi. Voilà.
Alors, est-ce que le principe du recueil joue un rôle? La semaine dernière, Midam répondait à mes questions et il y avait une certaine étape importante avec un album, un nouvel album, un nouveau recueil. Et quelle est l'importance pour vous de ce recueil, ou est-ce que c'est vraiment l'histoire en elle-même et sa prépublication qui est le plus important?
Moi, je dirais que c'est plutôt l'album. Je réfléchis en termes d'album. Donc, j'avance régulièrement. Mois après mois, j'essaie de sortir un nombre de gags de planches par mois. Et je fournis ça à Fulgacial qui a toujours une réserve, une quinzaine de pages d'avance, qui leur permet d'alimenter la prépublication dans le magazine. Et voilà. Mais du coup, moi, je m'en occupe absolument pas, quoi. Je réfléchis, je raisonne en termes d'album. Il faudra que les dernières planches soient faites pour aux alentours de novembre de cette année. Et voilà, je me concentre vraiment sur l'album. Quant à la prépublication, ça, c'est Flûte qui s'en charge. Ils ont leur petit lot de planches d'avance. Et ils font eux-mêmes le choix, voilà, ça, je m'en occupe pas. Moi, je réfléchis vraiment en termes d'album, avec le titre, la couverture, en termes d'objet, en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse.
Beaucoup d'auteurs et de scénaristes évoquent une relation particulière avec des personnages qui occupent leur quotidien. Comment ça se passe avec les mémés? Est-ce qu'il y a des moments où ils résistent sur des propos? Quelle indépendance elles ont par rapport à vous?
Je pense pas m'être encore confronté à ça. J'ai envie de dire que les mémés, c'est moi. Comme Flaubert qui disait que Madame de Bovary, c'est moi, ben ouais, les mémés, c'est moi. Donc pour l'instant, on est on a une relation assez harmonieuse. Et voilà, il n'y a pas encore de dissension. Donc tout se passe très bien. Les mémés, c'est moi et je leur fais passer ce qui me passe par la tête, quoi. Donc pour l'instant, c'est assez peinard.
Sylvain Frécon, quelle est l'ambiance musicale de votre espace de travail?
Alors l'ambiance musicale est très importante, comme chez beaucoup d'auteurs qui ont besoin de s'occuper un peu le cerveau et les oreilles. J'ai une immense playlist de musique que je mets en mode aléatoire. Ça passe c'est surtout de la musique, très peu de choses chantées en fait. C'est surtout de la musique, beaucoup de jazz, de classique et de musique du monde, de tango, de musique d'Amérique du Sud, mais une grosse base de jazz en fait. Beaucoup de jazz.
Merci beaucoup Sylvain Frécon. Eh bien, on sera en tout cas au rendez-vous du 5e.
Eh bien voilà, je suis dessus, je m'en occupe.
Super, merci.
Merci beaucoup.
Donc je rappelle les caractéristiques de votre livre, alors si je me souviens bien. Donc « Les mémés », tome 4, « Fleurs de pavé », les 64 pages de votre livre sont au prix de 19 euros, c'est ça?
Oh non, 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 c'est nettement moins cher.
Ah bah,
ça doit tourner autour de 11 ou 12 euros, j'en sais rien. Mais ça doit être autour de un peu plus de 10 euros, voilà.
Bon,
et bah, c'est Fluide Glacial.
Voilà,
et c'est tous les mois dans le 13, magazine.
13,90, nous dit-on.
13,90.
Ouais, 13,90.
13,90.
Ça voilà. Fait plus de droits d'auteur.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Sylvain Frédéric.
Allez, au revoir, bonne continuation. Au revoir.
Merci, au revoir.
Ce n'est pas pour les gros titres en noir que j'achète mon journal du soir, ni pour la rubrique des sports. Je parcours d'un vague regard la plus grande part de mon canard et je lis les potins d'abord. C'est fluctuant, mais c'est nature, cette sorte de littérature parlant des vivants, pas des morts. En se moquant de l'actualité dans le seul but de l'égayer, qui fait battre des records au potin d'abord. Le potin ne fait pas de bruit, on le chuchote, on en sourit et puis on l'oublie sans remords. On peut dormir loin des passions qui font déchirer les nations en lisant les potins d'abord. Les guerres, les crimes, les accidents, c'est commercial et ça se vend à la criée. Toute voile dehors. Le drame n'est pas un mets choisi pour aiguiser mon appétit. Je tourne la page et je dévore les potins d'abord. Supposons qu'un grand personnage occupe les premières pages, figé dans un même décor. Dans la rubrique que je préfère, on le retrouve aux Folies Bergères, proclamant d'une voix de stentor, popotin d'abord. Lorsque 5 colonnes à la une décrivent notre avenir dans la lune, ça me semble un coquin de sort. Et je redescends sur la terre, retrouver une certaine commère qui va m'offrir franco de porc, les potins d'abord.
C'était Suzanne Gabriello. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle a fait quelques parodies absolument réjouissantes. Je voudrais terminer avec le dernier album de James qui s'appelle Garçon manqué. Il a créé deux personnages, il a mis du temps pour créer ces deux personnages. Il y a eu une première version il y a très longtemps et puis ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Donc il a patienté, il revenait régulièrement sur ces deux personnages de Malcolm et Charlie. Et finalement, récemment, ça a trouvé sa forme. Un dessin aux traits un peu énergiques, l'utilisation de trames, des gags en six images, donc sur une demi-page, avec un découpage régulier. Et puis, dans cette forme classique, James a mis en œuvre les gags de deux enfants. Lui s'appelle Malcolm, elle s'appelle Charlotte, mais elle souhaite qu'on l'appelle Charlie. Et il y a pour Malcolm la volonté, eh bien, de ne pas être comme tous les autres garçons, d'aimer jouer au foot et autres. Et puis, eh bien, pour Charlie, c'est un peu l'inverse. La poupée, ça ne l'intéresse pas. Elle a plutôt au contraire envie, elle, de jouer au foot. Et il y a donc une discussion, des échanges, une manière de s'apprivoiser entre l'un et l'autre qui va être d'autant plus pressante que le père de Charlie et la mère de Malcolm vont tomber amoureux et ils vont donc se retrouver dans la même maison. Et il y a dans l'humour que déploie James avec cette série, une qualité d'écriture. Et je vais, par exemple, vous citer le gag de la page 20. Comment on va faire pour vivre ensemble et partager la même chambre alors qu'on ne se supporte pas ? Remarque, le fait qu'on ne se supporte pas mutuellement, ça nous fait un point commun. Ouais, et on trouve chacun que l'autre est un idiot et réciproquement. Et on râle tout le temps et on trouve tout le monde naze. Et on préfère se faire rouler dessus plutôt que de reconnaître qu'on a tort. Mince, on est fait pour s'entendre en fait. Mais bon, on a l'esprit de contradiction aussi. Donc on peut dire qu'on ne peut pas cohabiter. Ouf. Il y a cette façon d'écrire l'humour un peu décalé en partant de ces situations de départ de Malcolm, une sorte de garçon qui s'est déconstruit, qui évite toute masculinisation outrancière, le menant droit vers le machisme. Et puis Charlie qui est un peu séduite par ce que peut faire un garçon, mais qui garde à avoir pleinement son indépendance et sa liberté de penser. Donc James va déployer des gags sur différents niveaux d'humour, celui que je viens de citer, mais il y a des gags plus visuels, il y en a d'autres qui sont sur ces interpellations, ces interrogations. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Et ils vont observer discrètement père et mère en train de s'embrasser. Et il y a donc à chaque fois ces décalages et ces différents paramètres utilisés pour créer l'humour qui va parfaitement fonctionner parce qu'on est dans cette unité de temps, c'est-à-dire les cases qui se déroulent avec un minimum d'espace de durée entre chaque image et puis cette unité de cadre, l'image est pratiquement la même sur les 6 images du gag. C'est très efficace et on repense au fonctionnement de très grandes séries humoristiques comme par exemple Snoopy qui a l'auteur américain Schultz a déployé pendant une cinquantaine d'années avec le personnage par exemple de Charlie Brown ou de Suzy et qui avait une mise en image extrêmement simple et rudimentaire. Il y avait quelques traits, quelques éléments de décor et c'était tout. Et puis, il y a des auteurs comme Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Et Calvin est un personnage donc typiquement humoristique avec des proportions, donc une tête importante, un corps haut comme 3 pommes. Et là, on est dans ce même genre de registre avec cette qualité de ton, de propos, de thème, parce que Malcolm et Charlie peuvent aussi parler de thèmes assez importants, une sorte de maturité qui fait qu'en pleine conscience, eh bien, ils peuvent parler de différents thèmes. Et là, on pense à Mafalda avec cette qualité de paroles qui existent tout au long de la série. Alors, ces trois séries cultes que j'ai citées, eh bien, ça montre que James a pleinement réussi sa mise en œuvre de ces personnages qui ont cohabité avec lui pendant de très nombreuses années. Et ça, c'est une grande marque de talent. Par ailleurs, James est le directeur de la collection Patakès aux éditions Delcourt. Et donc ça aussi, c'est une grande marque de qualité parce que il faut choisir les différents titres. C'est une série et une collection qui accueille des talents très différents. Là, James a déployé ses récits de Malcolm et Charlie, regroupés sur le recueil de Garçons manqués, et c'est publié par Fluide Glacial. Donc c'est aussi important, ça colle parfaitement avec ce qu'on a pu trouver dans Fluide, ça apporte sa pierre à l'édifice. C'est une série qui, peut-être pas une série même justement, parce que Garçon manqué est conçu comme un recueil, mais qui pourrait se clore après cet album, après ce livre. Et là aussi, c'est peut-être aussi un talent que de ne pas chercher forcément, systématiquement, à exploiter le potentiel de personnages comme ceux de Malcolm et Charlie. Donc Malcolm et Charlie, Garçon manqué, c'est un recueil publié par les éditions Fluide Glacial, c'est signé par James. Et je crois que je vais pouvoir vous donner le nom de l'imprimeur, mais non. Je ne sais pas où c'est imprimé. Eh bien tant pis, ça sera pour une autre fois. On se retrouve la semaine prochaine avec Émile Bourget, qui a été assistant réalisateur de Paul Grimaud sur le film Le Roi et l'Oiseau. Et on pourra s'immerger dans ce qu'est être l'assistant réalisateur sur un tel film avec un tel réalisateur, puisque Paul Grimaud, c'était quelqu'un. Merci Antoine pour cette technique. À très bientôt et bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.